Yippee-ki-yay, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus 106.6. C'est la voix sans maître, l'émission du GDAL, du CCL et des anarchistes de tout poil. Et maintenant, on va laisser la place à Julien qui va nous parler de la situation calaisienne.
Oui, la situation calaisienne, bon, vous la connaissez puisqu'on vous en parle en long, en large et en travers depuis déjà un certain nombre d'années, donc un certain nombre d'heures d'émission au bout d'un moment. Cette fois-ci, ben, on va vous relayer deux informations. Une qui est un témoignage d'un bonhomme d'origine africaine qui a eu des soucis pour passer la frontière entre Calais et la Grande-Bretagne. Et une deuxième, enfin, qui sera la première en l'occurrence, le dernier communiqué de nos borders calais. Alors, ben, je vais vous parler donc de ça tout de suite. Il faut savoir que, ben, donc, en ce moment, sur Calais, ben, c'est toujours la chasse aux migrants organisée par la mairie, par la police, par l'État, enfin surtout par l'État, avec une quantité de CRS pas possible sur place qui chasse sans arrêt les gens des abris de fortune qu'ils et elles peuvent trouver. Et que ben, cet été, comme tous les étés, ben, les distributions de nourriture, de vêtements, d'aide de tout genre, en tout genre, sont limitées, puisque ben, les gens des associations partent en vacances, comme presque tout le monde, je dirais. Donc depuis le premier week-end de juillet, il faut savoir que sur Calais, la distribution des repas du soir à 18h n'a plus lieu, donc il n'y a plus que les repas du midi distribués par la Belle Étoile, donc qui sont des repas assez frugaux, il faut le dire. Et voilà. Et ben la mairie de Calais a essayé de profiter de cette occasion ben, pour empêcher finalement pratiquement toute aide apportée aux migrants, puisque en fait, les militants et militantes de nos borders ont entendu dire, et ça a été relayé dans la presse d'ailleurs, qu'il allait leur être interdit d'aider les gens sur la voie publique. En fait, voilà, d'aider les gens sur la voie publique, et que auquel cas, elle ferait intervenir la police. Donc, j'imagine la police municipale, puisqu'il s'agit de la maire de Calais, qu'elle a un pouvoir de police qui est quand même limité. Enfin, j'espère. Donc, nos borders, ben, c'est fendu d'un communiqué vengeur, disant ceci: ni nos borders, ni l'aide, ni la voie publique n'appartiennent à Madame Bouchard, dont la toute-puissance ne représentait que 23% toutes droites confondues aux dernières élections. Nos borders n'est pas une association d'aide aux réfugiés, mais un mouvement politique pour la liberté de circulation, la fin des frontières et de l'exploitation des salariés, ainsi que la possibilité pour chaque humain de déterminer où il veut vivre sans être enfermé dans des camps d'étrangers. Personne n'est illégal. Nous n'avons pas à obéir à Madame Bouchard, dont les idées et les pratiques sont similaires à celles de l'extrême droite. Actes illégaux contre les droits humains, mépris des chômeurs et des pauvres calaisiens, mensonges et organisation de la délation, tentative d'éviction des pauvres du centre-ville par la construction de logements hors de prix, on connaît ça aussi ici, allégeance envers le grand patronat, etc. Les associations subventionnées par la municipalité n'ont pas le monopole de l'aide aux migrants. De nombreuses personnes anonymes agissent sans association ni argent public pour corriger les atteintes aux droits humains des réfugiés organisées par l'État. Avec ce fameux Conseil des migrants sans migrants, instauré depuis l'élection de Madame Bouchard en 2007, et ses subventions, la mairie de Calais a pu museler les associations humanitaires locales et s'est donné les mains libres pour agir en dehors de la légalité, abusant de pouvoirs qu'elle ne détient pas. Il ne suffit pas de refuser toute rencontre avec les représentants des organisations de défense des droits humains, ni de les empêcher de se réunir dans les salles municipales, ni de bloquer tout dialogue avec les associations subventionnées pour faire croire que tout va bien, qu'il n'existe plus de guerre capitaliste dans le monde, ni de personnes qui les fuient pour sauver leur vie. Faut savoir que ça, c'est une allusion, en fait, à une convocation qui a eu lieu le 30 juin, qui a été envoyée par la maire de Calais aux associations humanitaires. Convocation sans ordre du jour, donc les associations humanitaires, c'est celles qui participent traditionnellement au Conseil des migrants. Et lors de cette convocation, donc Madame Bouchard, qui est arrivée avec un retard de 50 minutes, s'est contentée de leur lire un texte sans discuter. Et puis elle est repartie, elle a levé la séance. Je poursuis. Il existe aussi des lois qui interdisent à la police de contrôler sans motif les personnes, de les mettre en garde à vue sans avocat et de faire en sorte de renvoyer des gens vers un pays qu'ils ont fui pour bénéficier d'une prime de fin d'année en fonction du nombre de gardes à vue et d'expulsions réussies. À ce propos, on avait eu vent d'un rapport sur les primes de résultats exceptionnels de l'année 2008 octroyées aux flics en poste sur Calais. C'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment la politique du chiffre dans toute son ampleur. La véritable misère à chasser, dit toujours ce communiqué, c'est la misère intellectuelle sur laquelle poussent toutes les idées nauséabondes de l'extrême droite, celles qui sont l'unique soutien à l'attaque actuelle de tous nos droits sociaux et libertés publiques, en résumé, nos droits humains. No Border continuera d'aider les réfugiés à exercer leur droit à la vie sur la voie publique de Calais. No Border continuera à surveiller les agissements de la police et à s'opposer à la destruction perpétuelle des lieux de vie de ceux que le pouvoir s'acharne à rendre invisibles. Il n'y a aucune autorisation préalable à obtenir en France et dans une ville si démocratiquement gérée pour exercer le devoir politique de solidarité envers les salariés et les travailleurs et autres réfugiés, c'est moi qui rajoute, de tous les pays. Voilà, voilà pour ce communiqué de No Border Calais qui est, je crois, on ne peut plus clair et qui vous donne un petit peu une idée de l'ambiance dans les rues de Calais, je crois. Alors la suite sur Calais, eh ben c'est un petit témoignage donc d'un mec d'origine africaine qui vit en séjour régulier, comment on dit, enfin qui a le droit octroyé par l'État britannique de vivre pardon à Londres, mais qui se trouve-t-il bosse depuis plusieurs mois à Paris pour une société britannique, sa femme vivant en Angleterre à Londres. Donc il a essayé le 24 juin, il a fait ce que ont le droit de faire tout un tas de gens, c'est-à-dire partir de chez lui, prendre les fameux bus dont je tairai la marque pour traverser depuis Paris pour traverser la Manche jusque Londres pour aller rejoindre son épouse enceinte de 8 mois. Arrivé à la frontière à Calais à 1h du matin, il s'attendait à des contrôles de routine à propos de ces allers-retours entre France et Grande-Bretagne, comme on les a presque tous déjà vécu. En tout cas, pour ce qui est des militants No Border, je peux vous dire qu'on les a vécu. Et voilà, 5 flics lui ont vérifié les cartes d'identité des passagers, leurs passeports, etc., leurs visas. Et donc d'après eux, le passeport que lui leur a montré n'était pas le sien. Vous comprenez, il est quand même, il est noir quoi. Alors forcément, il est louche. Donc ils étaient persuadés que les photos correspondaient pas à lui. Il a essayé de les convaincre, mais ça n'a pas fonctionné. Ils l'ont fait descendre du bus et ils ont essayé tout de suite de lui faire signer un papier disant qu'il était en possession de documents illégaux. Restant aussi calme que possible, il a lu ce papier attentivement et quand il a bien été certain de ce qu'il s'agissait, il a refusé de signer. Il faut savoir donc que cet homme-là parle et lit le français, en tout cas suffisamment pour comprendre ce qu'il y a sur ce papier. Donc, effectivement, il a eu la chance de pouvoir comprendre ce qu'on voulait lui faire, la déclaration qu'on voulait lui faire signer et de le faire. Et évidemment, c'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui essayent de traverser cette frontière. Donc, on lui annonce, suite à son refus de signer, qu'il va être en détention pendant 24 heures pour vérifier, je cite, ses mensonges. Le ton des flics est devenu plus informel. Et voilà, on lui dit qu'il a le droit d'appeler un membre de sa famille en France pour l'informer qu'il allait en garde à vue. Ce à quoi il a répondu que sa femme était en Angleterre et qu'il n'avait que des collègues en France. Les flics lui ont répondu qu'il n'avait pas le droit de contacter quelqu'un de sa famille en Angleterre et que s'il n'avait pas de membre de sa famille en France, il n'avait qu'à signer un nouveau papier. Et voilà, évidemment, ce papier disait « Je ne veux pas contacter de membres de ma famille ni mes employeurs ». Encore une fois, on essaye de lui faire signer un truc qui ne correspond pas du tout à ses déclarations. Donc, il se retrouve en cellule, donc dans une cellule de 4 mètres, de 4 mètres par 3, avec un banc, avec un banc en béton, avec des couvertures puantes, avec un chiotte au milieu de la pièce, qui sent extrêmement mauvais. Dans cette cellule, bah, tout est sous le champ de caméras de surveillance. Même quand on chie, on a droit à aucune intimité. Et donc, il a essayé, bah, il est resté dans cette cellule pendant plusieurs heures, en disant qu'il a essayé de s'accrocher à sa dignité, à penser en fait à celles et ceux qu'il aime, à sa femme, à ceux de son village d'origine, etc., etc. Ensuite, donc le lendemain matin est venu, est arrivé, a eu lieu l'interrogatoire. Donc 5 flics, 4 hommes et une femme qui ont utilisé donc des techniques d'intimidation, persuadés que ce sont eux qui avaient raison, à savoir de dire qu'ils se promenaient avec un faux passeport. Ils ont fait venir même un physionomiste. Alors je ne savais pas que cette profession existait. Vous connaissiez ça, le physionomiste?
Ah, la crise, ça crée de l'emploi, hein.
Ouais, on dirait quoi. À part à l'entrée des boîtes de nuit, je sais qu'il y a des physionomistes, mais à part ça, c'est tout quoi. Et donc le physionomiste est venu, a regardé le bonhomme, a comparé avec la photo du passeport. Il a dit oui, c'est lui. Mais les flics n'étaient pas convaincus. Les flics lui disaient oui, mais il y a quand même un problème. Nous, on pense que c'est quand même pas toi. Donc ils l'ont emmené dans une autre pièce, donc la pièce où on fait les photos. Il a été donc photographié sous tous les angles, donc la photo anthropométrique, pardon. Et voilà. Et donc toujours dans cette volonté de lui faire avouer que c'était pas lui sur le passeport. Et il a failli le faire en fait, parce que ben finalement, enfin c'est ce qu'il explique dans son témoignage, parce qu'il en pouvait plus quoi. Il était à la limite quoi. Et finalement donc les flics ont contacté le procureur donc pour demander une mise en rétention, et le procureur a refusé et l'a fait relâcher. Voilà, donc on le relâche sans aucune preuve de détention, donc sans aucun document pour expliquer pourquoi il avait été retenu. Et il est rentré, il a fini par pouvoir arriver à Londres tard dans la soirée, donc du deuxième jour. Et voilà, alors que sa femme l'avait déclaré disparu au commissariat, était forcément très inquiète, etc. Et le fin mot de l'histoire, en fait, c'est que juste avant qu'il soit libéré, qu'est-ce qu'ont dit les flics? Ils ont dit, bah oui, mais sur la photo, t'as la tête rasée, alors que maintenant, t'as des cheveux, alors tu ferais mieux de te raser la tête, ce serait plus simple pour nous. Voilà, c'est quand même voilà, enfin c'est très caractéristique quoi, enfin et c'est vraiment, enfin on a des preuves de racisme qui sont incroyables dans cette histoire-là quoi, enfin c'est complètement accablant. Et bon, on peut être sûr que
Ah, parce que le pire, c'est que c'est accablant, mais en même temps, c'est ces espèces de saloperie ordinaire, parce que ce cas-là, on le sait, enfin, on en a déjà parlé un certain nombre de fois sur des gens qui se retrouvent en centre de rétention simplement parce qu'ils transitaient. Alors ceux-là, on en a peut-être un peu plus entendu parler dans la presse, etc. Mais parce que les gens, ils avaient tous les droits officiels de pouvoir circuler, etc. Mais qui ont quand même été emmerdés, etc. Des situations ubuesques à passer 15 jours en rétention ou en résidence. Non, c'est pas surveillé, je sais plus comment on appelle ça, juste pour des conneries de frontières, etc. Alors qu'on avait le droit de résider dans un pays, mais dans l'autre, etc. Il manquait le papier XB3, etc. Et puis il y a aussi toute la réalité de toutes celles et ceux qui se retrouvent en centre de rétention, où le seul but finalement de l'État, un, c'est de faire peur. Et puis deux, d'organiser l'expulsion la plus rapide possible, parce qu'on l'avait vu encore récemment, mine de rien, ce truc expéditif, hein, c'est bien parce que souvent les procédures se font de manière totalement illégale, et qu'un certain nombre de juges pas encore complètement aux ordres font casser ces décisions-là.
Eh bien, moi, je me permets de rarement intervenir dans votre émission. Je suis toujours là, Jero de Torre Latino. Évidemment, moi, mon pays au Mexique, on connaît des situations des Mexicains qui émigrent aux États-Unis, qui se sont fait parfois tuer. On connaît aussi la réalité des immigrants centro-américains qui traversent des côtés de Guatemala et que les autorités mexicaines, ils ont des méthodes similaires à les présenter dans ces cas-là. Il faut retenir certaines choses parce que je suis encore sous le choc après avoir entendu ces témoignages. Et est-ce qu'on connaît les noms de cette personne?
Oui.
On pourrait les répéter dans l'antenne, s'il vous plaît.
Je suis pas sûr que la personne le souhaite, en fait.
Correct. Mais c'est un témoignage direct.
Ouais.
Est-ce qu'on connaît on pourrait revenir sur la date précise?
Oui, c'est la nuit du 24 au 25 juin.
25 juin, donc ça fera trois semaines, un mois. Et voilà, c'est la situation aujourd'hui à Calais. Il a eu la chance de qu'il parle français.
Ouais.
Donc il a l'opportunité de lire tous les documents. On peut imaginer qu'est-ce qui se passe avec les autres, qui ne sont pas dans les mêmes situations de maîtriser de la langue française. Et ça, il faut simplement demander à nos chers auditeurs de parler autour de vous de cette cas. Si vous visitez Calais, posez des questions à la population. Il faut alerter sur les situations. Vraiment, c'est inacceptable que ça arrive dans un pays qui se dit démocratique, comme la France. Je suis encore, je suis froid, quoi. J'arrive pas à les croire, quoi. Je passe à Calais parfois pour faire une petite visite et on n'imagine jamais qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais ça, c'est une partie de la réalité. C'est la pointe de l'iceberg, on dit, non?
Ouais, c'est la pointe de l'iceberg et c'est la même chose que c'est une frontière au sein de l'Europe, une vraie frontière comme entre Ceuta, Melilla et le Maroc, comme entre le Mexique et les États-Unis, un point où deux mondes se confrontent et où d'un côté il y a l'énergie et la volonté de passer et de l'autre il y a toute la force et la puissance de l'État qui soutient et de la machine économique qui soutiennent les préjugés racistes, etc., dans leurs intérêts et clairement contre les êtres humains, quoi. Enfin, il y a pas d'autre mot, quoi.
Inacceptable.
Et en sachant aussi, en plus, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la France-Afrique, mais que justement parce que comme ce type de situation finit par se connaître, par être connu en Europe, et que ça peut parfois poser problème, encore que, de plus en plus, c'est la mise en place de ce qu'on a appelé l'externalisation des politiques migratoires, c'est justement faire effectuer ces contrôles, ce flicage qui est encore plus violent, encore plus dur. En Afrique, en Europe de l'Est, bientôt probablement aussi en Amérique du Sud ou en Asie, etc., justement pour le compte des États riches d'Europe, etc. Et donc on voit apparaître, se renforcer des frontières, là où il y a encore une vingtaine d'années, elles étaient plus formelles que réelles. En tout cas, en termes de circulation des personnes. Donc là, on a véritablement une aggravation de la question frontalière à l'heure actuelle.